Hello everyone.
Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler d'acceptation universelle. Aujourd'hui, c'est notre séance. Je sais que il y a des petits problèmes techniques pour les transparents, mais d'ici une minute, nous allons avoir la présentation PowerPoint disponible pour vous.
All right. Welcome everyone.
Donc bienvenue à toutes et à tous. L'équipe se met en place et nous travaillons au problème technologique que nous avons et que nous allons régler. Bon, j'espère que la participation à distance va fonctionner. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Indiquez-nous, s'il vous plaît. Quelle est la situation? Mais avec Adobe Connect, ça marche très bien. Donc, je vais commencer la présentation. C'est Edmond Chang au micro. Une nouvelle fois, bienvenue. Je m'appelle Edmond Chang. Je suis de .asia et c'est le forum public pour l'acceptation universelle. Nous avons un très beau panel aujourd'hui avec beaucoup d'experts, de gens qui s'occupent beaucoup de ce problème d'acceptation universelle et qui sont très au courant de ce qui se passe. Nous voulons engager la communauté dans ce voyage vers l'acceptation universelle. Si nous avions des transparents, je passerai au suivant, mais en fait, on ne voit pas de transparents ici. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'ordre du jour. Je vais vous parler de l'acceptation universelle, de ce que c'est, de quel est le problème que nous avons parfois avec l'acceptation universelle, du travail qui a été fait récemment ces derniers mois. Nous avons Renalia Abdulrahim qui va nous donner une perspective sur l'importance de l'acceptation universelle. Nous allons passer à Marc, qui a travaillé avec l'UASG de manière très étroite. L'UASG, c'est le Universal Acceptance Steering Group, donc ce groupe sur l'acceptation universelle, qui est le principal groupe qui gère cela. Nous allons donc avoir avec notre table ronde d'autres experts qui vont nous parler d'acceptation universelle et qui vont nous parler de leurs initiatives, de leurs expériences en tant que titulaires, en tant que bureau d'enregistrement, et ainsi de suite. Donc, de nombreuses personnes qui se préparent à l'acceptation universelle. Donc, ceci dit, si vous ne savez toujours pas ce qu'est l'acceptation universelle, je suis désolé, j'aurais dû peut-être donner une définition dès le début de ce terme, acceptation universelle. Lorsque l'on en parle, c'est la capacité des applications, des programmes et de l'Internet véritablement, d'accepter les noms de domaine internationalisés, les adresses e-mail internationalisées et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas anticipé par un système. Donc avec les nouveaux programmes des GTLD, des CCTLD, les nouvelles adresses e-mail qui sont internationalisées avec les nom d'utilisateur, ainsi de suite, c'est extrêmement important, cette acceptation universelle. Donc, nous voulons véritablement mettre à jour l'Internet pour les milliards d'êtres humains qui utilisent maintenant l'Internet. Et il y en a des centaines de millions en plus chaque année. Donc, l'UASG travaille entre l'ICANN 52 et le dernier ICANN en Argentine a beaucoup travaillé et cette UASG, ce groupe directeur sur l'acceptation universelle, travaille un petit peu en coulisses, ce n'est pas encore très visible, mais notre président n'a pas été en mesure d'être avec nous aujourd'hui, mais il aurait pu vous expliquer où nous en sommes. Je crois que le bateau est bâti, les voiles sont prêtes, le vent va s'engouffrer dans les voiles et le bateau va quitter le port. Donc nous avons beaucoup de travail qui est effectué. 6 points que je voudrais couvrir aujourd'hui, c'est le AI, donc l'internationalisation des adresses e-mail, la capacité d'avoir différentes langues dans les adresses e-mail. Pourquoi est-ce que c'est important ? Nous avons identifié cela comme étant véritablement un des points les plus importants, une des priorités. C'est vraiment en haut des priorités, parce que lorsque vous pouvez utiliser des adresses e-mail internationalisées, eh bien, il y a plus de chances que vous soyez en mesure de gérer les noms de domaines internationalisés IDN et que vous soyez en mesure de traiter également les GTLD et les nouveaux TLD. Donc ça, c'est extrêmement important, la manière dont nous travaillons avec divers organismes, Microsoft, Apple, Google et Postfix, le source ouverte, open source et ainsi de suite, qui utilisent et qui nous aident à envoyer des emails. C'est extrêmement important donc que ces emails, ces adresses emails soient internationalisées. Nous devons identifier les bonnes pratiques et les meilleures pratiques. Il y a plusieurs manières de faire, donc il n'y a pas que des meilleures pratiques, il y a de bonnes et très bonnes pratiques, je pense. C'est ce que nous essayons d'identifier. Alors, avec l'internationalisation des adresses e-mail, nous avons vu que ce qu'on appelle la linkification, donc avec des liens hypertextes, lorsque vous utilisez des messages, c'est pas exactement comme une adresse email, mais c'est pas exactement comme un nom de domaine, mais c'est des liens hypertextes qui vous amènent quelque part sur l'internet. Alors comment la machine va-t-elle reconnaître cela? Quelles sont les bonnes pratiques à ce niveau? Comment les nouveaux GTLD et les nouveaux IDN vont informer ce processus? C'est quelque chose qui est important pour nous. La sensibilisation également est essentielle pour nous. Nous devons parler de cette acceptation universelle, sensibiliser à l'UA, l'acceptation universelle, écouter aussi les utilisateurs, les communautés, pour savoir ce qui doit être fait à ce niveau de l'acceptation universelle. C'est pour cela que nous travaillons avec diverses organisations dans le domaine des technologies de l'information. Nous avons des documents qui sont fournis également et que nous voulons fournir à la communauté pour leur dire l'acceptation universelle est importante. Vous devez prendre cela en compte dans vos logiciels. Comment pouvez-vous régler les problèmes qui vont peut-être se poser et ainsi de suite. Faire prendre conscience, c'est ce que nous voulons faire. Présenter cela dans différents forums et fora. Oui, nous avons un petit problème de connexion à l'Internet, là. Excusez-nous. Alors, nous avons travaillé avec les titulaires de notre domaine et les bureaux d'enregistrement. Nous voulons être les leaders pour l'acceptation universelle. Et ce que nous recherchons, ce sont des feuilles de route, des lignes de conduite pour les registres et les bureaux d'enregistrement, pour être prêts, pour que tout le monde soit prêt. Les registres et les bureaux d'enregistrement sont des entreprises informatiques, des technologies de l'information, ils ont des clients, ils ont des rapports avec leurs clients, ils gèrent leurs clients. Il y a différents types de systèmes qui ont des interactions avec le public. Donc, il y a une gamme très large d'entreprises pour l'enregistrement des noms de domaine. Et pour les titulaires, les propriétaires des noms de domaine. Donc cela nous permet d'envoyer des messages, de communiquer avec eux et de parler de la pertinence de l'acceptation universelle. Donc je ne sais pas, j'ai reçu un message. Toute la conférence n'est plus sur l'Internet. On a eu un problème de connexion à l'Internet. Ah, je crois que c'est revenu maintenant. Voilà. C'est reparti, nous sommes à nouveau en ligne, après une petite coupure, et ça fait peut-être partie de l'accès universel, non pas de l'acceptation universelle. Donc, nous avons parlé des instruments de mesure également, nous devons bien comprendre ce qui est fait, ce qui fonctionne, et comment nous mesurons les résultats que nous obtenons, avec les codes ASCII par exemple, les IDN, les adresses e-mail et ainsi de suite. Donc, transparent suivant. Pour la documentation, nous avons reçu un retour d'information. Nous sommes à la troisième version de ce que nous appelons un document dont Marc va nous parler, qui est conçu pour les développeurs, les directeurs informatiques des entreprises, par exemple, qui nous permet, ces documents, de communiquer avec la communauté pour régler les problèmes et pour aborder des solutions viables. Donc c'est très important pour l'initiative. Merci à l'ICANN de nous apporter un soutien financier. Nous avons un budget maintenant qui nous a été alloué pour cette initiative Acceptation universelle. Nous en sommes très satisfaits. Voici à quoi ressemble le budget. Vous l'avez donc sur l'écran. Vous avez également, au niveau administratif, nous avons l'UASG qui est bien formé, nous avons un groupe de travail, nous avons beaucoup de travail qui est effectué. Hier, nous avons parlé, par exemple, à l'atelier, hier, un atelier, il y a plus de 50 de personnes qui sont venues participer. C'était intercommunautaire comme représentation dans le public et nous avons 16 actions, 16 mesures qui vont être prises dans les mois à venir. Cela inclut, comme je l'ai mentionné, un guide pour les directeurs informatiques, pour un guide sur l'architecture du système. Différentes statistiques également vont être diffusées. Avoir de meilleurs rapports avec les différentes organisations, c'est essentiel pour nous. On ne peut pas travailler seul, on le comprend bien. Nous voulons bâtir des relations avec d'autres organismes et entreprises. Nous voulons lutter contre les pourriels avec les organisations de lutte contre cela. Nous avons ANSOC et ainsi de suite qui collaborent avec nous. Et nous allons avoir de plus en plus d'étapes pour renforcer nos collaborations. Donc véritablement une feuille de route pour penser à l'avenir. Ceci dit, vraiment, il me semble que la prochaine phase se déroulera et nous vous invitons à nous rejoindre, à lancer le mouvement avec nous. Nous avons identifié les points clés à traiter. Donc, c'est parti maintenant. Nous avons démarré et au mois de janvier, 14 et 15 janvier à Washington, aux États-Unis, à la capitale des États-Unis, nous aurons une réunion sur l'acceptation universelle. Nous avons de la documentation qui est préparée pour cette rencontre et nous formons également des petits groupes de travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Voici ma mise à jour donc sur l'acceptation universelle depuis Buenos Aires. Voilà le travail qui a été réalisé et j'aimerais maintenant passer la parole à Renalia Abdulrahim qui va nous parler un petit peu plus de l'importance pour les utilisateurs de l'Internet de l'acceptation universelle. Merci beaucoup Edmond. Renalia au micro. Nous avons des interprètes, donc je vais parler lentement, puisque nous sommes interprétés en plusieurs langues ici, en 6 langues. Donc je suis membre du conseil d'administration. Je ne suis pas ici en tant que membre du board, mais donc une nouvelle fois, je m'appelle Renalia, mais je suis là pour vous parler un petit peu du travail que j'ai fait au niveau des IDN, j'ai été au comité consultatif à ce sujet en 2011 et j'ai regardé les problèmes sur les IDN parce que personne ne comprenait les IDN à l'époque et c'était la communauté des utilisateurs finaux. Il fallait bien comprendre quelles étaient les inquiétudes au niveau des IDN. C'était extrêmement complexe comme sujet et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de l'acceptation universelle. Moi, j'étais à la tête d'une organisation multipartite où je bâtissais des communautés dans le monde entier. Il y avait des partenariats pour utiliser les informations, les technologies de l'information, de la communication dans les communautés les plus pauvres pour leur donner l'accès à l'Internet et aux services de l'Internet et services en ligne dans les langues locales et dans les scripts locaux, dans les systèmes d'écriture locale. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'y avait pas une acceptation universelle et que ça posait problème. Donc, on parle ici de l'acceptation universelle. Moi, je crois que je prêche déjà aux convertis. Et peut-être que vous savez déjà tout cela, mais moi, j'aimerais vous donner le point de vue d'un utilisateur final de l'Internet. Alors, vous voyez une croissance incroyable de l'Internet. C'est toujours positif lorsque l'on montre cela. Ça, c'est une projection. En 2020, nous aurons 4 milliards de personnes branchées sur l'Internet et des possibilités de revenus, des applications très nombreuses, des systèmes intelligents intégrés. Mais il y a une division malgré cela. Il y a une division numérique. On parle du fossé numérique. Nous avons 3 milliards d'utilisateurs de l'Internet sur une population de 7 milliards de personnes sur cette planète. Et nous avons ceux qui ont l'accès et ceux qui n'ont pas l'accès à l'Internet. Ceux qui ont l'accès à l'Internet sont aussi divisés. Il y a ceux qui peuvent avoir l'accès complet à l'Internet et ceux qui n'ont pas l'accès complet à l'Internet. C'est là la question de l'acceptation universelle. L'autre fossé, l'autre division, c'est que les utilisateurs ne sont pas en mesure d'utiliser un nom de domaine, d'enregistrer un nom de domaine, qu'ils ne peuvent pas utiliser leur propre langue ou la langue de leur préférence, qu'ils ne sont pas en mesure d'accéder et d'utiliser l'Internet, ses services et ses applications. Ça, c'est le problème de l'acceptation des TLD qui n'est pas universelle. Alors, pourquoi les noms de domaine comptent pour les utilisateurs? Vous le savez, vous êtes des experts. Et lorsque vous parlez aux utilisateurs en général, ils ne comprennent pas toujours cela. Il faut leur expliquer un petit peu. Nous savons que il y a des chiffres, il y a des numéros pour les adresses e-mail comme IPv4, IPv6. C'est important dans le contexte d'aujourd'hui parce que d'entre nous ne se rappellent même pas du numéro de téléphone portable de nos conjoints. Donc les numéros des adresses protocole Internet IPv4 et IPv6 sont bien longues. On ne peut pas s'en rappeler, on ne peut pas s'en souvenir. Alors, cela compte pour les utilisateurs parce que pour les adresses e-mail, il y a le nom, après l'arobase, il y a le nom du domaine. Et il faut le rappeler aux utilisateurs finaux, aux non-spécialistes, pour utiliser les applications mobiles également, pour s'inscrire à des services, pour l'authentification, pour l'identification. Lorsqu'on utilise plusieurs matériels mobiles, par exemple, eh bien là, il faut utiliser ces adresses e-mail de ce type. Donc, la question, on en a parlé auparavant, la valeur des noms de domaine est de moins en moins importante. Pour les utilisateurs, il n'y a une limite. Et pour ceux qui apportent des services aux utilisateurs, la valeur des noms de domaine s'accroît. Pour les personnes techniques, ils vont vous le dire, les ingénieurs. Ils vont vous dire la même chose. Les noms de domaine sont également utilisés pour accéder à des contenus par l'intermédiaire des navigateurs des sites web. Donc l'acceptation universelle, pour moi, c'est véritablement quelque chose qui a une fin. Lorsque les TLD sont utilisables, ces applications Internet, dans tous les scripts, dans toutes les langues, eh bien ça, c'est quelque chose qui permet de soutenir tous les utilisateurs de l'Internet du monde. On n'y est pas encore à ce niveau. Il y a une évolution des TLD. L'ICANN a été dans cette direction. Maintenant, nous pouvons avoir différents types d'adresses. Est-ce que nous avons un Internet multilingue ? Grande question. On n'y est pas encore arrivé. Nous avons plus de 7000 langues parlées dans le monde. 50% sont parlées dans la région Asie-Pacifique. Et je viens de l'Asie-Pacifique. Il y a différents types de scripts et différents types de systèmes d'écriture. Ils sont nombreux. Et la zone racine, jusqu'à 2010, n'avait que les codes ASCII. Et l'ASCII vient du latin, de l'alphabet latin. Ça, ce n'est pas la diversité de notre monde. Ça ne reflète pas la diversité de notre monde. L'évolution des TLD, maintenant, nous devons dépasser ces codes ASCII et avoir plus de diversité au niveau des scripts et avoir des étiquettes pour les TLD qui fassent plus de 2 ou 3 lettres. Des CCTLD, on passe aux IDN, au CCTLD IDN, regardez, vous l'avez en arabe, en chinois, en thaïlandais sur l'écran. Pour les GTLD, nous avons des étiquettes plus longues, ces IDN, GTLD.com, ainsi de suite, et nous voyons à l'écran les différences avec les différentes langues. Il y a une forte demande pour ces nouveaux scripts, pour ces IDN TLD. Il y a des demandes. 18 scripts ont été demandés, de l'arabique au latin, en passant par le thaï, et ainsi de suite. Beaucoup de chinois, le han pour le chinois, par exemple. Donc ça, c'était à la fois des IDN, CCTLD et GTLD. Voilà, nous avons une carte du monde avec les noms pour les codes pays. Regardez l'Inde. L'Inde, vous voyez. Pour seulement l'Inde, il y a 7 scripts officiels pour le nom Inde, simplement. Vous avez une diversité incroyable au niveau linguistique en Inde. Donc, pour... je ne sais pas si vous connaissez cela déjà, mais nous avons l'ICANN, nous avons... pour les règles d'étiquetage, génération étiquetage, nous avons un grand projet de l'ICANN à ce sujet. Il y a des variances pour les TLD. Nous devons passer par ce processus. pour développer donc un nouveau système d'étiquetage. Et les différentes communautés des différents scripts et différentes langues doivent avoir un répertoire linguistique pour déployer des TLD sur leur zone racine. Il y a beaucoup de variances. Il y a 18 scripts, 18 communautés qui ont commencé à faire ce travail. Vous l'avez à l'écran, vous avez des experts au niveau technique sur l'Unicode IDN, DNS, sur les lignes de conduite, les différentes politiques, les questions linguistiques. Je vais vous dire pourquoi c'est important dans votre travail sur l'acceptation universelle. Regardez pour l'arabe. Ça, c'est utilisé, le script arabe, en fait, est utilisé pour beaucoup, pas seulement pour la langue arabe, mais pour beaucoup de langues, plus de 50 langues, de l'Afrique au Moyen-Orient à l'Asie. Vous voyez le vert, c'est le degré de script arabe avec l'orthographe traditionnelle. Et puis, vous avez différents pays, et quand c'est moins vert, c'est un orthographe officiel, mais d'autres langues sont reconnues. L'arabe est une des langues uniquement, pas la seule langue ou la langue officielle. Donc, vous voyez, en Asie, c'est officiel au niveau sous-national. Nous, on utilise le script arabe dans mon pays, et je suis de Malaisie, et je parle malais. Donc, pour résumer, les utilisateurs de l'Internet se base sur le nom de domaine pour accéder aux services Internet et les applications. Nous devons être véritablement des défenseurs de cette acceptation universelle. Nous avons une forte évolution des TLD et nous sommes un petit peu en retard au niveau des services Internet. On n'a pas toujours été conscient du problème, on n'a pas eu assez d'accès aux lignes de conduite architecturales et il n'y a pas eu beaucoup au niveau des règles et des réglementations d'investissement dans des solutions pour résoudre le problème. Donc je crois que vous le savez déjà, mais pour résumer, pour soutenir les utilisateurs de l'Internet du monde entier, les TLD doivent être utilisables dans les applications, quel que soit leur script, leur longueur, ou leur caractère novateur, donc l'acceptation des TLD écrits dans tous les scripts, des non-TLD qui sont plus longs que 3 caractères. Donc, à quoi ressemble le succès? Donc, lorsque une personne peut enregistrer et utiliser un nom de domaine dans tout script, dans toute longueur, dans des navigateurs largement distribués avec des clients email, des applications mobiles pour effectuer des comptes en ligne. Et ça, c'est mon dernier transparent. Comment atteindre le succès? Il y a une règle pour la communauté des utilisateurs et la communauté technique qui sait qu'on doit régler les problèmes par l'intermédiaire de la technologie. La communauté des utilisateurs doit identifier et avoir des priorités aussi claires que possible pour que les personnes qui sont en mesure de résoudre les problèmes puissent y travailler et qu'il y ait une demande claire de cela. Donc nous avons différentes règles. Il y a plusieurs communautés linguistiques, 18 communautés linguistiques qui travaillent. Moi, nous avons terminé notre travail avec les Arméniens et le groupe arabe-arabique a terminé son travail et on peut passer à l'acceptation universelle. Donc je crois que c'est une note positive sur laquelle je voudrais conclure. Merci beaucoup, Rénalia. Edmond au micro. À nouveau, vous nous avez donné un contexte très large. C'est extrêmement intéressant de parler de ces noms de domaines internationalisés. Donc j'aimerais maintenant passer la parole à Marc qui va nous donner une mise à jour sur ce dont parlait Rénalia. Il va tenter de trouver une définition encore plus solide de l'acceptation universelle. Donc je passe la parole à Marc Swankarec. Oui, je suis de Microsoft. Je m'appelle donc Marc Swankarec et pendant quelques minutes, je vais vous parler des 5 critères que nous avons pour l'acceptation universelle, pour la définition. On va parler des utilisateurs, de différents scénarios, ce que vont faire les personnes avec cette acceptation universelle, des exemples de non-acceptation, d'échecs, des exemples d'échecs, des détails pour les critères qui existent, les 5 critères, des détails pour la mise en œuvre et également plus d'informations techniques. Donc les 5 critères de l'acceptation universelle. universelle est la capacité d'accepter, d'emmagasiner, de traiter, de valider et d'afficher tous les noms de domaines TLD et toutes les adresses email et IDN. Donc on connaît déjà ces définitions, c'est ce que sont les codes ASCII avec l'alphabet latin, les 127 caractères latins, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est un vieux standard, 127 caractères. Nous avons également l'Unicode, UTF-8, c'est le format préféré, c'est un standard moderne avec des millions de caractères et beaucoup de langues. Dans le monde donné, sous soutenu de cette manière, les IDN, les noms de domaine qui contiennent cet Unicode. Si les systèmes d'étiquettes contiennent l'Unicode, on les appelle des IDN. EAI, c'est une adresse email qui est uniquement composée d'Unicode. Punicode, c'est un algorithme pour transformer les étiquettes Unicode en étiquettes ASCII. Et les étiquettes ou labels A, c'est pas très bien clair, pas très clair sur l'écran. Voilà. C'est donc une étiquette encodée ASCII qui a donc un rapport avec l'étiquetage Unicode. Donc voilà le Punicode XN tiret tiret. Donc ça c'est un préfixe. On sait que le reste de la chaîne va être donc un label A, un A label. Et c'est devenu L8JTG9B, ce qui est beaucoup plus long. Donc voilà ce qui se passe à ce niveau. Donc avec ces définitions, pour lancer le débat, des scénarios pour les utilisateurs. Le premier scénario, je crois que ça vous intéressera. Lorsque vous enregistrez un nouveau GTLD, quelqu'un veut enregistrer un IDN éventuellement. Par exemple, .brand, brand, ce qui veut dire marque en anglais. Donc, j'ai demandé maintenant d'avoir un GTLD.brand et pour renforcer l'identité de marque, ma marque de fabrique, pour contrôler le TLD.
Pour accéder à ce GTLD, d'habitude, il faut que je saisisse cette adresse et puis cliquer un lien quelque part. Nos attentes sont que même si le GTLD est tout neuf, il va marcher comme les vieux TLD. Alors, pour utiliser une adresse de courrier électronique en tant qu'identité, c'est tout simple, on le fait tous. Peut-être que c'est pour le programme de fidélité de votre compagnie aérienne, peut-être que c'est pour la banque. On donne toujours une adresse de courrier électronique et on a accès à ce service tout simplement. L'acceptation universelle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'adresse de courrier électronique contient un GTLD, un nouveau GTLD, qui sera accepté comme si c'était un vieux domaine. L'accès aux IDN. Eh bien, c'est similaire à l'exemple des GTLD, mais maintenant, c'est une chaîne Unicode. C'est pas tout neuf, mais c'est neuf dans sa nouvelle écriture. L'acceptation universelle veut dire que les navigateurs, les applications vont tous traiter ce nom comme les vieux noms de domaine. On avance. De même, qu'est-ce que ça donnerait si votre adresse courrier électronique est utilisée avec un IDN, pas avec un GTLD? C'est le même scénario, c'est si je veux utiliser mon identité qui me représente avec mon script natif, et puis quand je demande un service, je vais utiliser mon adresse, mais quand je saisis mon adresse sur une boîte, sur un champ blanc, ça ne va pas l'accepter, ça me dit de donner une adresse email. Donc l'acceptation serait de lui accorder le même traitement. Nous avons parlé de la linkification, comme on dit, lienification, pour la création de documents. Donc imaginez si on a une adresse web ou une adresse de courrier électronique que l'on veut ajouter à un document. On n'a pas pour l'instant défini les règles pour le faire et il y a beaucoup de discussions de quand on devrait faire ça ou de si on devrait le faire même, parce qu'il y avait une minorité de personnes l'autre jour qui trouvaient que ce n'était pas nécessaire, mais il y a des règles qui s'appliquent consistamment avec les adresses qui s'occupent de s'il s'agit d'un AIS ou pas et si ce qu'on dirait est un nom de domaine l'est ou pas, si c'est un GTLD ou un IDN par exemple. Dans ce cas-là, on a aussi le scénario des développeurs. Comment peut-on créer des applications qui soient universellement acceptées ou alors encore plus difficiles Qu'est-ce que ça donnerait si on voulait maintenir, entretenir un code plus ancien? Si on voulait accepter l'IDN, assurer l'acceptation universelle, il faut avoir des outils, il faut avoir des librairies qui le font automatiquement. Donc, c'est pas la peine de comprendre comment faire la normalisation, comment faire la traduction Unicode. Suivant. Alors, les exemples. Si on peut pas, en fait, mettre en œuvre tous ces scénarios, c'est un problème. Bien sûr, ça pose des problèmes. Mais peut-être que vous avez vu ailleurs d'autres mesures qui ne sont pas aussi évidentes. Par exemple, si on a une personne qui essaie de faire la validation soi-même et que l'on se dit qu'un nom de domaine, un TLD, doit être de 6 lettres, de 6 caractères, par exemple, on pourrait très bien échouer avec l'acceptation universelle. Si on a une source vieille, désuète, ou si on a une source de liste acceptée, de non acceptée, on est probablement sur la route vers l'échec. Si on consomme d'une source autoritative mais qu'on ne met pas à jour cela avec fréquence, on pourrait très bien échouer avec l'acceptation universelle. Vous vous souvenez des étiquettes A? Même ça, pour les utilisateurs, ça devient un échec de l'acceptation universelle. Les utilisateurs n'ont pas à comprendre comment fonctionnent les IDN, avoir les tirets-tirets, etc. Il faudrait jamais leur demander de saisir cela dans n'importe quel champ. Que ce soit un courrier en IDN qu'ils veulent saisir pour envoyer un mail à un copain, ou s'ils veulent accéder à un compte dans une compagnie d'hébergement ou sur un site web. Il faut pas qu'ils comprennent. Et puis, on a finalement, comme je disais, cette modification des EAI en étiquette A. Il y a des utilisateurs qui acceptent l'EAI, qui ne peuvent pas accepter les adresses de courrier électronique en IDN. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ils vont le traduire en étiquette A parce que le développeur croit que ce sera peut-être plus compatible avec son écosystème. C'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce serait un exemple de l'acceptation non universelle. Donc, concernant les 5 critères, on a ici davantage de détails. Je m'excuse. Pardon. On a des applications et services qui permettent au nom de domaine et au nom de courrier électronique d'être saisis dans des interfaces utilisateurs et ou reçus des autres applications à travers des API. Alors, si vous écrivez des applications, il faut savoir quels sont les nouveaux formats, quels sont les nouveaux standards, si c'est plus long qu'avant, si on a d'autres écritures qui prennent davantage de caractères. Il faut être au courant, il faut savoir ce qu'est la normalisation. Un des critères est la validation. Et c'est ici que se fait la validation. Lorsqu'on saisit un texte dans un champ de texte, il y a une application qui valide si la chaîne est valide ou pas. Et c'est de là que vient une grande partie de la frustration. Aujourd'hui, on peut saisir une chaîne, ça va nous dire que c'est pas valide. Puis on a le stockage. Les systèmes d'ordinateur, par exemple, ou les bases de dates, tout ça stocke des données, que ce soit dans la mémoire de travail ou dans les bases de données. On va stocker les connaissances. Alors, il faut toujours les stocker en Unicode. C'est vrai qu'il y avait des appels à commentaires qui ont défini le format comme non propriétaire s'il fallait utiliser des formes intermédiaires et qu'il fallait convertir dans les deux sens. Mais on préfère le format UTF-8. Bien, le traitement. Alors, le traitement peut être n'importe quoi en fait. On a plein de manières de traiter les données qui peuvent être utilisées, par exemple, pour dire, bon, tout le monde en Nouvelle-Zélande a un .nz. Les pharmacies aussi, ils ont une adresse de courrier électronique qui est @pharmacie. Donc, ce serait polémique de dire « je vais bloquer cette adresse parce qu'elle a une mauvaise réputation ». Ça pourrait être depuis le département informatique des sociétés au niveau national ou régional aussi. Ça pourrait devenir peut-être une politique. Alors ce traitement doit tenir compte des formats valides pour pouvoir appliquer les politiques. Alors la validation typiquement se fait aussi au moment des traitements. La validation n'existe pas en isolement, ça existe avec tout le reste. C'est tout ce que je voulais dire avec ça. Et finalement, on voit l'affichage. Il faut pouvoir afficher tous les points de code en Unicode. Et en général, on dépense en ressources de système d'exploitation pour pouvoir le faire. Donc cela, d'habitude, est fourni par la plateforme, quelque chose à laquelle on peut accéder à travers les outils qu'on a, à travers les API dont on se sert. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir des transformations spécifiques aux applications qu'il va falloir faire. Il y en a parmi ça qui se fait dans la couche de l'application, peu indépendamment de la plateforme sur laquelle on travaille. On avance. On s'est déconnecté encore une fois. Oui, je ne sais pas. Edmond Chung prend la parole. On s'excuse de cette pause. Apparemment, on a perdu la connexion et ça revient. Bien, on avance alors. D'accord. Alors, compte tenu de ces informations, si on pense à tout ça comme des exigences, ces exigences que l'on voit d'habitude, si on voit cette liste en tant que développeur, ça nous aide à voir si l'application qu'on veut développer ou qu'on veut entretenir, maintenir, va avoir des problèmes d'acceptation universelle ou pas. Si vous êtes un professionnel de TI, d'information, c'est la langue dont on va se servir pour parler aux fournisseurs ou aux sous-traitants pour voir si ce qu'ils vont nous donner sera accepté universellement, s'il y a une version spécifique qui est compatible ou pas, ou il y a des modifications qu'il faut apporter. Alors, une application ou un service qui soutient l'acceptation universelle devrait soutenir tous les noms de domaine. On revient, s'il vous plaît. Soutenir donc tous les noms de domaine, indépendamment de la longueur de l'ensemble de caractères, devrait permettre la saisie de caractères internationaux, ça veut dire tous les points de code Unicode, dans tous les champs d'entrée dans l'interface de l'utilisateur. Ça devrait correctement rendre ces points de code en chaîne Unicode et pourrait également montrer correctement, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite, le texte. Ça devrait également pouvoir communiquer les données entre les applications et les services dans des formats qui soutiennent Unicode et qui sont convertibles de et à UTF-8. Offrir le soutien aux API, stocke les données en formats qui soutiennent Unicode et tous les autres aussi. Cette application ou service soutient également toutes les chaînes des noms de domaine dans les sources autoritatives. Donc, la liste soutenue par l'ICANN, c'est la liste suffixe publique de l'ICANN qui peut envoyer des courriers électroniques aux destinataires dépendant des noms de domaine ou des ensembles de caractères, peut recevoir des emails de différentes personnes indépendamment des noms de domaine ou des ensembles de caractères et soutenir des comptes qui sont associés avec des alias dans des adresses au courrier électronique en Unicode ou ASCII. Entre-temps, pendant qu'on attend à voir l'écosystème en ligne et pendant qu'il est accepté, il y a des personnes qui vont vouloir ajouter leurs adresses au courrier électronique en EAI. Sans doute, ils vont commencer à utiliser les scripts et ils vont se retrouver avec des personnes qui n'ont pas l'acceptation universelle dans leur système. Donc, ils vont devoir avoir différents comptes de courrier électronique. Donc, il va falloir soutenir ces configurations. J'espère que c'était utile pour vous. C'est tout ce que j'avais à partager. Et pour finir, comme j'ai dit, on élabore des documents qui entrent en davantage de détails sur les meilleures pratiques pour les développeurs. Et nous espérons que vous allez lire ce document et faire vos contributions là-dessus. Edmond Chung prend la parole. Merci, Marc. Je pense que cela nous donne une idée des documents qui sont élaborés ici au sein de ce groupe. Cela dit, nous passons maintenant une autre partie du panel, un autre membre du panel qui travaille sur la mise en œuvre de l'acceptation universelle et qui considère la question de ce qu'on fait. Je vois qu'on a dans la salle également Ashwin Rangan, donc on l'invite à s'asseoir à table. C'est le directeur informatique de l'ICANN. On veut remercier l'équipe informatique de l'ICANN spécifiquement parce que de ces derniers 6 mois, ces 6 derniers mois, ils ont travaillé sur l'acceptation universelle des IDN partout dans l'ICANN et commencer à comprendre cette question semble être une question très compliquée. Et des fois, Jonathan, mon collègue, décrit ce problème Très clairement, c'est comme les poupées russes. On passe d'une couche à la suivante et ça finit jamais. On ouvre, on n'arrive jamais à la fin. Et donc, pour pouvoir prévenir ce problème de problème à l'infini, justement, il faut commencer à le comprendre. Même si c'est un projet tout petit, des fois, comme Ashwin va sûrement expliquer, on parle des fois de ce qui nous occupe. On parle de l'ICANN, par exemple, mais ma compagnie a soutenu le forum de commentaires de l'ICANN. C'est un forum, une plateforme qui est en ligne sur le site web et qui prend des commentaires. Ce projet à lui tout seul comprenait, comme Marc disait, l'acceptation des adresses internationalisées, comment les traiter, comment les renvoyer, parce qu'il faut remettre ces courriers à quelqu'un d'autre. Donc, comment peut-on également valider si c'est une adresse de courrier électronique ou pas? Et puis, l'affichage. Donc, ça nous a demandé différentes librairies. On essayait de valider les adresses de courrier électronique à travers différentes bibliothèques. Et la validation des noms de domaine doit également être mise à jour. Parce que ce qu'on avait ne comprenait pas les EAI. Donc, il a fallu changer le serveur de courrier électronique et ajouter davantage de converseurs d'Unicode à la plateforme pour qu'ils soient acceptés universellement. Même pour un projet aussi petit, vous voyez qu'il faut beaucoup de travail. Il faut travailler avec différents secteurs qui se concentrent sur l'acceptation universelle. Cela dit, on passe donc d'abord à Ashwin et puis on passera à l'autre côté de la table. Est-ce qu'on pourrait parler des différentes organisations? Qu'est-ce qui a provoqué certaines mesures qui ont été prises? Et puis, considérer les projets qui peuvent être réalisés en 6 mois. Et après ça, je voudrais savoir quelle est votre perception des modifications qui ont été faites, comment on a changé le panorama et quels sont les défis clés que vous voyez dans l'horizon. Donc, je donne d'abord la parole à Ashwin. Ashwin Rangan prend la parole. Si vous permettez, je voudrais paraphraser votre question. C'est une question particulière ou vous voulez que je partage ma pensée avec vous? Non, c'est en fait votre pensée, dit Edmund Chung. Il y avait un nombre de questions en général que j'avais. Donc, comment les différentes organisations abordent cette question? Qu'est-ce que vous avez identifié à travers votre étude de la question? Et puis, quelle est la feuille de route d'en avant? Ashwin prend la parole. Bien, merci. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce panel. À l'ICANN, bien sûr, on est proche de tout ce que vous discutez parce que c'est un projet auquel on a participé intimement parce qu'on faisait partie du processus. D'abord, on avait le défi de travailler avec ce portefeuille de services et c'était intéressant, mais ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a commencé par un répertoriage des services connus et à mesure qu'on avançait, on a commencé à identifier d'autres qui n'étaient pas fréquemment utilisés par les personnes, mais qui devaient être inclus dans le catalogue. Alors, dans une période entre 3 et 5 mois, on a pu consolider une liste représentative et définitive, qui était la liste. Et une fois qu'on avait cette liste complète, on a commencé à la diviser en différentes parties. D'une part, on se concentrait sur celles qui avaient été codifiées internement et celles qui avaient été sous-traitées ou qui faisaient l'objet d'une licence d'utilisation d'un service SaaS. Et les deux problèmes sont différents. Si on pense à l'ICANN, on en a qui sont représentatifs de compagnies de logiciels, de petites compagnies. Pas de grandes compagnies en termes d'empreintes, par exemple, ou des mesures habituelles. Et donc, notre possibilité d'avoir une influence sur la feuille de route, sur les produits des fournisseurs qui vendent du prêt-à-porter est singulière. Et comme j'ai partagé avec le groupe du Alger hier, lorsqu'on rentre chez nous, il faut parler aux personnes qui nous fournissent les logiciels. Et on a vu qu'il y en avait qui ne connaissaient même pas ce problème. Et d'ailleurs, aucun de nos contrats comprenait des clauses standards. Donc, en ce moment, on essaie d'élaborer des contrats standards avec des clauses communes. Et lorsqu'on se rapprochait des fournisseurs, le niveau de connaissance varie aussi. Et selon le point où ils se trouvent dans leur feuille de route, ils commencent à travailler avec nous pour comprendre le problème ou même pour essayer de toucher un des fonds des autres pour pouvoir résoudre le problème. Alors, les réactions qu'on identifie dépendent, en fait. Ça dépend de la personne qui répond. Il va falloir être prudent en avant. Maintenant, pour ce qui est du logiciel qui est développé internement dans les sociétés, ça dépend et ça fait varier la vitesse avec laquelle ils peuvent manœuvrer. Comme notre société, Alican, on a différentes plateformes utilisées pour développer du logiciel et le lancer, le mettre en opération. Ces plateformes ont été révisées le long du temps et plus on s'éloigne d'aujourd'hui, moins on a d'informations. Donc le défi est que même si on a les compétences pour pouvoir altérer le code, on ne voudrait pas agir pour l'UA, mais sans pour autant avoir la documentation nécessaire. Donc on veut œuvrer correctement, mais on ne veut pas casser ce qui fonctionne. Vous voyez, cela va nous empêcher d'avancer, ça va nous obliger de revenir en arrière. Le fait qu'on a différentes plateformes, c'est en soi-même un défi parce qu'il y a des plateformes qui sont interconnectées et il faut que l'on sache vraiment qu'on comprend ces liens et qu'on s'assure que ce qui s'intègre avec l'acceptation universelle ne va pas casser le reste, ça ne va pas abîmer le reste du code. Et puis, lorsqu'on voit les appels à commentaires, ils sont très ciblés, très orientés vers un sujet spécifique, mais ça ne nous fait pas toujours avancer. Donc, il reste beaucoup de travail à faire pour la définition de l'ensemble exhaustif nécessaire pour passer de l'identification d'un besoin d'acceptation universelle à la consécution de notre travail, la conclusion du travail, où on n'aura plus rien d'autre à faire. Alors, pour cette partie du portefeuille qui est intégrée internement, c'est le plus difficile pour nous. Edmund Chung prend la parole. Merci, Ashwin. Donc, comme vous dites, la portée est plus large que ce qu'on pense d'habitude et que ce qu'on avait prévu, d'ailleurs. Je voudrais à ce point-là que l'on avance. On va passer à l'autre bout de la taille. On n'a pas énormément de temps et je m'en excuse, mais essayez de présenter en 2 minutes à peu près pour pouvoir avoir des questions à la fin et racontez-moi un peu qu'est-ce que vous avez identifié. Jeff Houston prend la parole. Oui, merci. Je suis de Appen Inc. En Asie-Pacifique, on opère avec un registre spécifique pour notre région. On a bien sûr des clients qui sont variés, qui parlent différentes langues et qui, par conséquent, utilisent différentes écritures. Alors, c'est pas qu'on cherche à ajouter des scripts, des langues aux règles et aux étiquettes habituelles. Pour nous, le défi, c'est de penser à Unicode et de l'intégrer à un système en ASCII et de l'intégrer à un système Unicode. Alors, tout ce qu'on a supposé jusqu'à présent ne fonctionne pas. On a des risques qui surgissent parce qu'on voit différentes manières de représenter les mêmes choses et qui semblent être différentes. C'est pas binaire. Si c'était binaire, ce serait pareil toujours dans l'écran. Mais ici, on ne lit pas toujours de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc, on peut pas avoir une chaîne unicode d'une valeur et s'attendre à ce que les applications la comprennent. Alors, c'est vraiment énormément difficile et ce n'est pas simplement pour les noms de domaine. Quand on a commencé à travailler, on s'est occupé d'abord des adresses de courrier électronique. On s'est dit, est-ce qu'il y a des noms d'utilisateurs qui, en fait, semblent l'être, mais qui sont à la place du nom de domaine? Est-ce qu'on va changer ça? Et non. Est-ce que le fournisseur va le changer? Non. Parce que ça n'ajoute pas de valeur commerciale pour lui et ça implique beaucoup de travail. Eh bien, parlons maintenant des registres, et particulièrement du WHOIS, ce qui nous fait beaucoup travailler. Le protocole du fournisseur, qui est vraiment très vieux, ne supporte pas Unicode. Est-ce qu'ils vont supporter Unicode? Non. Et pourquoi pas? Parce que les recherches peuvent impliquer des problèmes, comme la syntaxe, comme les protocoles. Les gens du protocole vont dire, moi je vais parler à Unicode, pas à ASCII. Il faut changer tout ça, mais c'est pas que nous. C'est tous les clients qui doivent changer cela. Ils vont pas le faire. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Probablement non. Donc, c'est triste, mais la plupart de la partie front-end ne va pas changer. C'est Unicode qui pose problème. Les seules bonnes nouvelles qu'on a, c'est qu'on commence à travailler pour changer cela. Merci. Une personne non identifiée prend la parole. Merci. C'est une approche très réaliste. C'est Edmond Chang, pardon, qui parle. Mais c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est parce qu'on a des difficultés. On a d'autres approches. Je suis de GoDaddy. Je suis Joe. Lorsqu'on a commencé avec à travailler sur les paramètres, on a vu que nos contacts avec les titulaires des noms de domaine commencent dès le moment de l'enregistrement. Il faut permettre d'abord aux clients de saisir ces données de contact dans la langue et dans l'écriture qu'ils comprennent. C'est le bureau d'enregistrement qui doit le faire. La plupart des personnes vont donc pas saisir leurs données en ASCII. Ça va être en une autre langue, en Unicode FT8 ou dans son propre script. Et il faut donc pouvoir supporter toutes ces écritures dans les bases de données. Il faut s'assurer que Unicode FT8 est supporté partout, surtout. Pas tous les registres supportent les caractères et peuvent être utilisés pour créer un contact. Si ceux qui pourraient le supporter ne leur permettent pas de créer un compte, ça ne sert à rien. Alors les informations devrait être soit traduite, soit translittérée. On a également identifié un autre problème. Telle adresse de courrier électronique, comme Mark et Jeff disaient, si les adresses de courrier électronique sont saisies en UTF-8 et pas en ASCII, ça va poser problème parce qu'on ne peut pas savoir si le client va recevoir un courrier électronique pour vérifier son identité. S'il ne reçoit pas le courrier, son compte va devoir être supprimé suivant la politique. Donc, c'est vraiment un problème. Ça pose problème. Maintenant, pour le WIS, les clients de WIS ne sont pas standardisés. Il y a des clients WIS qui vont afficher les caractères UTF-8, mais il y en a qui ne vont pas le faire. Edmond prend la parole. Merci. Bonjour, je suis Hélène Peirce de Donuts. Avant de commencer, je voudrais savoir si vous connaissez la personne de Finlande qui a perdu son passeport. Est-ce qu'il y a des Finlandais dans la salle? Non? Bon, je chercherai. Je suis vice-présidente d'opération chez Donuts. Et mon travail est surtout de m'assurer que tout fonctionne. Une partie de cela implique de m'assurer que les noms de domaine que nous vendons à nos clients fonctionnent pour eux. On a un système de soutien à la clientèle, où on reçoit très souvent des courriers électroniques des titulaires de noms de domaine parce qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes à travers le bureau d'enregistrement. Donc, on est, nous, le dernier arrêt lorsqu'il y a des problèmes. C'est l'arrêt obligé. Lorsque j'ai commencé à travailler avec les télés il y a un an et demi, on recevait des mails de clients qui essayaient de créer des comptes bancaires, d'accéder à leur banque privée avec un nouveau TLD. Et donc, c'était pour des noms de domaine, des adresses e-mail. C'était pour Chase Bank à l'époque qu'on avait beaucoup de problèmes parce que ça ne fonctionnait pas. Et ce problème posait problème aux clients et donc pour nous aussi. Pour répondre à cela, on a fait des essais pour Chase Bank et à de nombreuses reprises. On a essayé de vérifier les mêmes initiatives pour les 800 sites les plus visités. Et à l'époque, on ne pouvait pas créer un compte en utilisant un TLD. Et ce qu'on a vu était que 30% des 800 sites plus utilisés ne reconnaissaient pas les TLD et ce n'étaient même pas des IDN, c'était juste des sites qui n'étaient pas .com. Voilà notre première approche du problème. C'est là qu'on s'est impliqué avec le groupe de acceptation universelle des IDN et avec les avancées de l'ICANN dans ce domaine pour essayer d'avancer avec ce problème. Mais au niveau intérieur, notre approche est très informelle et de toute façon, Il me semble qu'il serait important de vous raconter qu'on a 30 employés qui, lorsqu'ils identifient des problèmes comme celui-là, les font suivre et contacter les personnes que l'on connaît aux différentes sociétés pour leur dire « Regardez, vous avez un problème parce que les personnes ne peuvent pas utiliser leur nom de domaine ou leurs adresses au courrier électronique ou quoi que ce soit. » Et ils communiquent directement avec cette compagnie. C'est quelque chose tout simple, mais on leur demande d'aider les clients. C'est tout. Ces derniers 10 mois, on a commencé à travailler sur une initiative qui s'occupe des 500 sites web ayant le plus de trafic sur Internet. Et on a testé 320 de ces sites. Il y avait qui étaient des doublons google.jp.ie. On les a pas retestés parce que Google, en fait, avait toujours de bons résultats. Mais sur 320 sites testés, on a vu 252 qui acceptaient de nouveaux TLD dans leur forme. Et on a vu qu'il y avait 70 qui avaient des problèmes, soit parce qu'ils ne reconnaissaient pas les TLD ou alors parce que leur courrier électronique ne sortait pas de leur serveur de courrier électronique. Et la sensibilisation qu'on a fait était de contacter leur service de soutien à la clientèle et de leur faire savoir qu'ils avaient ce problème. Sur ces 70, il y en a eu 3 sites qui ont résolu le problème dans les premiers 30 jours et le reste a continué de travailler là-dessus. On a continué à leur demander de le résoudre. Il y a d'autres questions qui ne sont pas vraiment d'intérêt significatif, sensibles pour les fournisseurs, mais puisqu'on a des prévisions pour 2020 dans lesquelles la plupart des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs vont venir d'Asie, ils sont intéressés à le résoudre.
Donc Edmond Chang au micro, oui en effet, il va avoir changé la situation. Jennifer Stenneford de .com, nous allons parler un petit peu de la question du bureau d'enregistrement qui justement sont devant les clients au quotidien. Donc nous gérons ce problème. Au niveau ASCII, même pas, on ne gère même pas les problèmes qui pourraient se poser avec les IDN. La plupart de nos clients sont anglophones. Ce sont de grosses entreprises, des petites entreprises également. Nous avons beaucoup, ils ont eux-mêmes beaucoup de clients. Donc, moi je veux parler de l'approche, de ce que nous avons connu, nos activités, au niveau local, pour faire plus pour l'éducation, pour la prise de conscience, pour l'information. Donc, lorsque l'on achète à un bureau d'enregistrement un nouveau TLD, avec, en effet, une adresse email qui vient avec, eh bien, il y a des emails personnalisés, donc qui parlent d'acceptation universelle. Ce que nous demandons à nos clients, c'est d'effectuer un partenariat avec eux. C'est comme à Donuts, vous nous avez parlé de ces problèmes. Donc, nous parlons aux banques comme Chase, comme Citi, pour avoir de bons rapports avec eux. Nous parlons avec leurs filiales. Nous communiquons avec les prestataires de services pour qu'on prenne conscience de l'importance de l'acceptation universelle. Nous, avec les prestataires comme Cisco, Juniper, les vendeurs de logiciels, nous essayons d'avoir là aussi de bons rapports avec eux et de leur parler de l'acceptation universelle. Ce n'est pas toujours facile à ce niveau. Donc, au niveau de nos clients, nous avons créé un annuaire interne et nous avons vu les erreurs que on pouvait avoir au niveau de l'acceptation et des problèmes d'acceptation. Donc, problème avec l'acceptation universelle. On essaie de suivre ces problèmes et de communiquer avec les clients pour s'assurer que les clients règlent ces problèmes. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas toujours facile et les problèmes se posent au quotidien. Pour moi, au niveau interne, un peu comme GoDaddy, nous avons dû utiliser nos outils de rapport avec les consommateurs et les clients pour qu'ils fassent partie de l'acceptation universelle. Nous avons fait des progrès à ce niveau. Donc, si vous allez à mon CTO, mon CIO, donc c'est comme si on avait un CTO ou un CIO externe, eh bien, on veut que les clients soient en mesure d'utiliser cela, donc que ce soit accepté universellement. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, on voit des progrès. Vous avez parlé de ces difficultés, mais vous notez également qu'il y a des progrès. De plus en plus de ces grosses entreprises comprennent l'importance de l'acceptation universelle. Donc, Denis, de First Line. Oui, oui. De VeriSign, Denis Lang. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'aimerais faire l'écho de ce qu'a dit mes collègues. En tant qu'entreprise à VeriSign, on a deux différents niveaux pour l'acceptation universelle. Nous sommes une entreprise, comme toute autre, VeriSign, mais nous sommes également un registre. Donc, nous avons des noms de domaine. Nous faisons partie de l'industrie des noms de domaine, du secteur. Nous avons donc nous emmagasinons des données, des contacts, des adresses, et on veut que ça fonctionne bien. On veut que le système fonctionne, donc l'on suit toutes les règles. Au niveau de l'entreprise VeriSign, pour l'emmagasinage, l'entreposage des données, pour les adresses internationales, les noms de domaine internationaux, ASCII ou IDN, on se trouve, et je crois que c'est la même chose que ce que disait Ashwin, il y a des interdépendances dans les systèmes et entre différents systèmes. Donc ce n'est pas nos systèmes, donc on doit contacter ces entreprises qui ont leur propre système. Il faut communiquer beaucoup pour voir les points communs, pour voir comment on peut fonctionner entre systèmes, les interdépendances. Donc, il y a des contrats qui nous lient ces entreprises aussi, donc c'est pas toujours facile. Ça nous limite parfois à notre capacité à résoudre les problèmes. Donc, je crois qu'on est tous sur le même bateau, mais en groupe, nos voix sont de plus en plus fortes, se font entendre, et je pense que on n'a pas peur de parler de ces problèmes. Moi, je travaillais dans les ventes avant, et on disait que pour 20 non, vous allez obtenir un oui. Donc, c'est un petit peu notre règle. Donc, on va obtenir des non. Il y a des gens qui vont refuser de nous aider dans l'acceptation universelle. Mais je crois que, de plus en plus, nous entendrons des oui. Edmond au micro, oui. Je crois que on a entendu parler de ces titulaires de noms de domaine, de ces bureaux d'enregistrement, de toutes ces étapes pour l'acceptation universelle, et je crois que nous allons avoir des avancées pour l'acceptation universelle. Donc j'aimerais demander s'il y a des questions dans la salle, plutôt que de continuer à parler. Est-ce qu'il y a des questions à nos panélistes, à notre membre de notre table ronde? Oui, j'ai une question ici. Oui, il y a une question dans la salle. Allez-y. Oui, Alex Lee, dot trademark en chinois. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette expertise et écouté ces interventions avec attention au sujet de l'acceptation universelle. Et ce qui est intéressant et parfois un peu gênant, dirons-nous, c'est que les expériences sont très diverses par rapport aux IDN, par rapport à l'acceptation universelle. Ce n'est pas toujours quelque chose de très connu. Je crois que vous travaillez dans des groupes de travail évidemment très différents. Il n'y a pas toujours des représentants IDN, il y a différents registres, différents bureaux d'enregistrement, ainsi de suite. Les expériences sont très différentes, mais je crois que vous pouvez toujours trouver des experts. La plupart d'entre vous ont partagé des expériences concernant les codes ASCII. Est-ce que vous avez connu des problèmes en rapport avec les IDN, plus précisément, pourriez-vous nous en parler de ces problèmes avec les IDN? Merci. Oui, Tennis au micro. Eh bien, nous travaillons avec des IDN et il y a 12 TLD IDN. Nous avons déposé des dossiers pour cela. Je n'ai pas parlé précisément de cela. Moi, je suis responsable de produits à VeriSign pour les IDN et très souvent, et ne le dites pas, ça c'est, je le dis très discrètement, nous devons travailler avec notre équipe marketing parce que il y a des campagnes où il y a une recherche qui est effectuée. Je veux un nom de domaine et je tape l'IDN et c'est invalide, c'est choquant. C'est un nom de domaine qui ne fonctionne pas, qui n'est pas reconnu. Donc je crois qu'au niveau interne, c'est de plus en plus un problème. Et je crois que les entreprises se penchent de plus en plus là-dessus. Donc je crois que Marc en a parlé dans sa présentation. Les navigateurs ont tendance à traiter les IDN comme quelque chose d'un petit peu inconnu. Ça dépend où vous en êtes, ça dépend de vos paramètres également, hein, de votre ordinateur. Je crois qu'à l'UASG, ce qu'on essaye de faire dans ce groupe de direction pour l'acceptation universelle, c'est de trouver les meilleures pratiques des différents titulaires de logiciels et essayer, notamment pour les mobiles, pour les applications mobiles, ça pose beaucoup de problèmes. On veut voir des processus basés sur l'acceptation universelle. Moi, j'ai vu des applications mobiles traitant des noms de domaines, mais qui ne traitent pas complètement les IDN, les noms de domaines internationalisés. Ça revient avec l'étiquette Unicode, très souvent. Donc, les grands navigateurs, les navigateurs bien connus, ça va à peu près. Les marques plus petites, encore des problèmes. Donc, je crois que toutes les pratiques ne sont pas encore mises en œuvre. Merci beaucoup, Denison. On est un peu en retard, mais un commentaire de Jeff et un commentaire en ligne aussi. Donc, oui, pour Epinic, on a fait un test sur 300 nouveaux GTLD. Il y avait 10 IDN et on a remarqué qu'il y avait un taux d'erreur important. Les utilisateurs de l'Internet le notent et n'étaient pas en mesure de travailler avec des IDN. Ça, c'est un problème de langue, de script dans les navigateurs. Donc, ce script ne faisait pas la différence entre le Unicode et l'Unicode. Et cela prêtait à confusion pour la machine, pour le système. Ça, c'est le problème des IDN. Il y avait des représentations qui étaient équivalentes. Et parfois, vous obtenez un code interne et vous n'aviez plus l'équivalence. Et évidemment, il y a eu des rapports défectués et il est clair que au début, pour les IDN, nous avions beaucoup de problèmes, nous avons résolu la plupart de ces problèmes. Nous sommes ici pour les résoudre. Dernier commentaire en ligne. Oui, c'est un commentaire de Ram Mohan, qui était à tête de l'UASG et d'Afilias. Il était à Afilias. Il a dit, lorsque Afilias a lancé un fonds en 2001, on a parlé de tous les problèmes sur l'acceptation universelle. Sur 10 ans d'existence, Info a eu du mal à être accepté universellement dans les applications, les logiciels, l'équipement de réseautage et les entreprises. On a beaucoup progressé et nous fournissons des enregistrements pour 250 TLD qui font plus de 3 caractères et nous notons que beaucoup de systèmes sont trop rigides dans leurs critères d'acceptation pour les noms de domaine et les adresses e-mail. Nos gros clients qui lancent des TLD avec leur propre nom d'entreprise notent qu'ils ont des problèmes au niveau de leur TLD et qu'ils perdent véritablement des emplois et du travail à cause de cela. C'est un véritable marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, aide-moi au micro. Désolé de ce retard. Nous avons eu des petits problèmes techniques. Nous vous remercions de votre attention. Comme l'a dit Ram Mohan sur l'Internet, c'est un long périple. On n'a pas encore réussi à tout changer. Mais je crois que l'UASG a identifié plusieurs problèmes qui seront réglés très prochainement. Donc nous allons ensemble progresser et la situation difficile sera une situation brillante d'ici peu. Merci beaucoup de votre attention et applaudissez s'il vous plaît les participants à la table ronde.